par les forces de l'ordre. Ouh, mais on dirait bien qu'il va s'en sortir, dis donc. Il va s'en sortir ou pas, le gars?
Je pense, oui.
Ils l'ont attrapé alors?
Ils l'ont mis à terre et tout.
Comment? Ils l'ont mis à terre?
Oui, oui.
Allez, c'est un gamin de 15 ans qui sont en train de défoncer un gamin.
Ah ouais, c'est un gosse. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir 15 ans, ce mec-là, quoi. Il est par terre, là, maintenant. Hein. Il y a combien de flics sur lui? 1, 2, 3, avec des genoux. On entend le jeune crier.
Mais vous lui faites mal! Mais vous lui faites mal, c'est qu'un gamin!
Et ils sont où vos RIO? Et ils sont où vos RIO? Moi je les vois pas, moi je comprends pas. Comment on fait pour dénoncer les fachos si vous n'avez pas vos RIO?
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Le capitalisme n'est pas, jouez pas au con avec
lui. On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
Quand on est gentil, hein, on est toujours gentil.
C'est le capitalisme n'est pas.
Arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, dit porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute d'On passe au rouge, entièrement déconfiné pour l'occasion aujourd'hui, puisqu'on a Toto et Massy en plateau.
Voilà, ils sont tous là, ils vont un peu virtuel quand même.
Qui vont venir faire leur chronique, bien sûr. Voilà, oui, évidemment. Mais calme-toi, je sens ton émotion également.
Il y en a.
Dans ta voix, puisque nous faisons une émission de reportage, puisque nous partirons tous ensemble, joyeusement avec Gigi notamment, qui n'est pas là, mais qui fera, lui. Attends, t'es là toi ou t'es pas là? Moi je comprends plus cette émission.
C'est enregistré tout ça.
Non, pas complètement non plus.
Tes réactions sont enregistrées, je parle en fait à une bande son. Et c'est ça, on partira avec toi le
très réactif d'ailleurs.
Très réactif. On partira dans la manif du 16 juin. Reportage également devant la statue faite d'herbe. Vous savez que on va tenter de la déboulonner.
Place de la République, hein, là, c'est à l'entrée de la rue de Béthune. Hein.
Bordel. Bien sûr, vous pouvez pas la louper. On partira avec les Black Blocs aussi. Pourquoi? Bah pourquoi pas surtout. C'est surtout, ce sont des gens globalement bien. On a un petit reportage avec les Black Blocs.
Non, on a un son avec les Black Blocs, ouais, mais il y en a surtout plein d'autres.
Moi, quand je dis sur ma fiche reportage Black Bloc, je parle de reportage et de Black Bloc. Et on aura bien sûr.
Où est-ce que t'as vu ça? Vas-y, montre-moi cette affiche un peu.
Oui, mais il y a marqué ça c'est pas très radio, tu vois.
Oui, d'accord.
Et il y aura également la chronique à Massy et Toto qu'on aura en semi-live différé de plusieurs minutes.
Voilà
c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Attends, l'ordinateur, il faut que je le règle. Donc, mais juste avant de retrouver tout ce beau linge et tout ce beau monde, on écoute le talon de fer de Jérôme Leroy, une chronique à relire dans Liberté Hebdo, bien sûr.
Une seule image. C'est tout de même revenu très vite, les vilaines habitudes du pouvoir. Nous ne sommes même pas totalement déconfinés que le macronisme reprend la main pour mieux gifler ceux qu'il fallait applaudir, la bonne conscience en bandoulière, alors que les soignants criaient dans le désert sur la situation désastreuse de l'hôpital depuis des mois. Lors des manifestations du 16 juin, une seule image a résumé ce retour à l'ordre. C'est l'arrestation, pour le moins musclée, d'une infirmière de 50 ans. Je ne reviens pas sur les faits eux-mêmes, mais sur les réactions des habituels valets, politiques et médiatiques du macronisme. Ils sont à nouveau en marche après cette arrestation suivie d'une garde à vue et d'un procès qui aura lieu en septembre, après la plainte de 4 CRS sans doute étranglés par le stéthoscope manié par l'agresseuse d'un mètre 55. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode nous permet de mettre à jour ce qu'on pourrait appeler un raisonnement fasciste. À quoi, en 2020, reconnaît-on un fasciste ou un macroniste? Le macronisme est un fascisme déguisé, un lepénisme avec du déo sous les bras. Eh bien, pour cette tête de mort, quand il y a une victime de la police, ce n'est pas la police qui est coupable, c'est évidemment la victime. La victime avait provoqué. On remarquera qu'on accuse de la même manière les femmes violées de l'avoir bien cherchée. Ou alors, la victime avait un passé de délinquant, où elle était la petite cousine par alliance de la belle-sœur d'un dealer. Par exemple, l'infirmière en question, elle, avait lancé des pierres sur la police et fait des doigts d'honneur. Peu importe qu'elle se soit épuisée pendant 3 mois, 18 heures sur 24 dans les services Covid, qu'elle ait assisté à la mort de 30 patients, qu'elle soit dans une rage folle devant les promesses trahies, son comportement justifie son traitement. C'est pareil pour Traoré, qui vient d'une famille de délinquants, forcément. Pareil pour Cédric Chouviat, le livreur père de famille, décédé en janvier 48 heures après son interpellation. Il roulait sans permis, ce qui vaut bien la peine de mort. À la limite, on devrait même se féliciter que l'infirmière en question s'en tire si bien face à une police excédée qui s'est montrée si aimablement républicaine en la menottant et en l'agenouillant le front en sang. Comment dire sans être désobligeant, même en admettant ce qui est difficile dans la France de 2020, que la police ne soit pas mise au service des dominants. Cette institution a ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Elle doit donc en user avec discernement et de manière proportionnée. Elle doit se comporter de façon d'autant plus exemplaire qu'elle est armée, ce qui n'est pas le cas des citoyens. Transposons un instant la situation au monde enseignant. Vous savez, là où on a trouvé tant de profs décrocheurs pendant le confinement qui se sont roulés les pouces et qu'il faudra sanctionner, nous dit Blanquer, qui panique à l'idée que son incompétence ne lui retombe dessus lors d'un prochain remaniement. Eh bien, si tous les profs se comportaient face à des élèves insultants, violents, comme les flics se comportent avec les manifestants, même agités, même décidés à en découdre comme les Black Blocs, il y aurait aussi du sang sur les murs de nos écoles. Mais le prof se souvient, parfois avec difficulté, mais il s'en souvient qu'en face de lui, ce sont des mômes au bout du compte et que lui est un adulte. On peut au moins demander aux flics ou à leur commandement de se souvenir qu'en face d'eux, ce sont des civils. Alors, on est professionnel, on respire un bon coup et on passe à autre chose. Personne n'oblige un prof à être prof, personne n'oblige un flic à être flic. S'ils n'ont pas les nerfs, ils n'ont qu'à changer de job et qu'on n'en parle plus. Ce dont il va falloir parler, en revanche, dans les mois qui viennent, si la pandémie ne revient pas pointer son nez, c'est comment en finir avec un système capitaliste tellement plastique qu'il arrive à se nourrir de tout, y compris des catastrophes qu'il a lui-même provoquées. En tout cas, je nous souhaite bon courage. Et à bientôt.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com. Allez, vous le savez, nos joyeux reporters bravent le virus au risque de leur vie, hein, faut le rappeler, hein, quand même. Hein. Seb, tu braves ta vie, quoi, finalement.
On est 4 là, hein, sur le terrain en ce
quatre,
moment.
Ouais. Ouais. Enfin, non, mais on n'est pas 4 ici. On est quatre sur le terrain.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, là, on part le mardi 16 juin à Lille et on va aller, voir les gens qui applaudissent.
C'était cette grande manif. Ah, voilà, ouais. Vous avez applaudi, vous avez été invité à descendre dans la rue. On a voulu vérifier si les applaudisseurs étaient là.
Oui.
Vous avez applaudi, vous,
oui.
À 20h, là, tous les jours.
Tous les soirs, à 20h. Et on est là aujourd'hui pour les soutenir.
De quoi ils ont besoin, d'après vous?
De tout.
C'est ce qu'ils ont demandé déjà. L'augmentation de salaire, ils ont déjà demandé ça. Ils ont demandé du matériel. Ils ont demandé tout ça. Et il me semble bien qu'il y a des modèles aujourd'hui qui fonctionnent autre que des modèles financiers comme c'est fait aujourd'hui. À Valenciennes, il y a un bel hôpital à Valenciennes qui a été fait sur un nouveau modèle et qui aujourd'hui fonctionne bien. Donc pourquoi on ne réadapte pas ce modèle-là? Et surtout, pourquoi on va faire un Ségur alors qu'on connaît déjà la problématique? Maintenant, il faut agir. Et c'est pour ça qu'on est là.
Les soignants revendiquent parfois 300 euros par mois de plus.
C'est mérité. C'est mérité.
Et où est-ce qu'on va trouver cet argent?
Et bien que l'État réemprunte la dette totale qu'ils ont aujourd'hui à l'Europe et qu'ils fassent une transition écologique comme ils n'ont pas fait depuis longtemps. C'est là où il faut qu'ils fassent. Aujourd'hui, on a moyen d'emprunter sur les marchés. Nicolas Hulot, il l'a dit, aujourd'hui, on a moyen d'emprunter sur les marchés justement pour obtenir autre chose. Eh bien, faisons-le. Mais on le fait pas.
Vous brandissez une pancarte marquée Gilets jaunes solidaires des soignantes. Vous avez applaudi, vous, à 20h, tous les soirs?
Oui, j'habite un petit village, donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que j'estime que les soignants, vu l'énorme boulot qu'ils font, ils méritent un salaire en fonction de leurs responsabilités, enfin de leurs compétences. Et j'estime qu'on devrait leur donner les moyens. Également, tout le matériel nécessaire pour pouvoir s'occuper des patients qui sont hospitalisés. Parce que le manque de personnel, ça fait beaucoup aussi, ça.
J'ai applaudi de temps en temps pour voir mes voisins. J'étais seul, je tournais en rond dans mon appartement. C'était une fenêtre ouverte, mais c'était un peu stupide, mais enfin.
Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui, monsieur ?
Pour que le pouvoir sente qu'il ne peut pas faire tout et n'importe quoi après avoir assigné à résidence tout un peuple par son impéritie.
Qu'est-ce que vous craignez qu'il se passe maintenant ?
Tout simplement un régime totalement autoritaire. Monsieur Macron, mon cul, c'est quelque chose quand même qu'il s'est développé. L'autoritarisme et le pouvoir vertical. Donc il faut voir qu'il y a des forces sociales qui vont s'opposer à ça, comme il y en avait avant le confinement.
Mais pourtant, le président de la République, il y a deux jours, vous appelle à l'unité républicaine. Ça fait pas très unité républicaine, là, je trouve.
Tant pis, de toute façon, ne me parlez pas du président de la République.
Pourquoi ?
Pour donner, par exemple, des lacrymos, ils en donnent, ils en ont tout de suite. Des masques, ils n'en ont pas. Donc moi, c'est tout ça qui va pas. De toute façon, il est... Moi, je peux même pas en parler, j'ai pas envie. J'ai même pas envie de parler de lui, quoi.
Elle est là, l'unité républicaine.
Elle est dans la rue, l'unité républicaine.
Bien sûr.
L'unité républicaine, ça veut dire quoi ? L'unité derrière lui ? Certainement pas. La démocratie, c'est justement l'absence d'unité. C'est la pluralité qui discute et pour l'avenir de la nation. C'est pas du tout l'unité. L'unité, ça a toujours été totalitaire.
Mais pourtant, est-ce qu'il ne faut pas rester soudé dans ces temps difficiles ?
Une pièce soudée, comme dirait Notre-Dame, c'est difficile ensuite de dissocier les éléments. La soudure, c'est quelque chose qui est contraire à la démocratie.
Et le monde d'après, vous le voyez comment ? Vous l'espérez comment ?
Plus humain. Beaucoup plus humain. Moins axé sur la finance et plus axé sur l'humain et l'écologie.
Le monde d'après, un monde un peu meilleur. Que les hôpitaux restent publics. Hein, qu'on ne parte pas comme aux États-Unis, où les gens, avec des moyens financiers réduits, ne pourraient plus soigner. Moi, je suis pour que tout le monde puisse se soigner, déjà. Hein, et puis que tout le monde puisse vivre correctement. On ne manque pas une fortune, mais qu'on puisse vivre correctement. Qu'on arrête de nous tirer à droite à gauche, parce que ça, c'est pas normal non plus. On tire toujours sur les mêmes. Et sur les personnes avec des gros revenus, on tire pas. Et ça, c'est pas normal. Parce que eux peuvent donner. Donc on tire un petit peu sur ces gens-là.
Oh, le monde d'après, d'abord sans cette caste internationale qui s'appelle la finance libérale, qu'on la balaye définitivement plutôt qu'elle en profite pour conforter ses profits. Quels sont les premiers investissements que l'on fait lors du déconfinement ? On finance Air France, on finance la FNAC, alors que les libraires indépendants souffrent quand même un peu plus que la FNAC.
Pendant la gueule.
Comment ?
Pendant la gueule.
Et ailleurs aussi.
Les humiliations pendant les manifestations, ni les matraques, ni les tasers pleuvant sur nous pour nous faire taire.
Ni les menaces, ni les croche-pieds, ni les grenades lacrymogènes, ni les tonfas, les LBD, ni vos regards remplis de haine.
Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne doit pas vous faire oublier que notre méfiance est profonde. On oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on n'oublie rien, de rien on se méfie, c'est tout. Ni ces déclarations d'amour, alors qu'avant vous étiez sourds,
ni ces promesses de meilleurs jours que l'on espère depuis toujours.
Ni les heures de ma vie données, ni les soins chaque jour assurés pour préserver la bonne santé de 67 millions de Français.
Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier,
ne doit pas vous faire oublier que la fatigue est à son comble. On n'oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on n'oublie rien, de rien on n'en peut plus, c'est tout. Ni tous ces masques, ni tous ces gels qu'on attend pendant qu'on confine
et qui arrivent en caravelle parce qu'ils sont fabriqués en Chine.
Ni cette reprise du boulot malgré le virus dans le métier. aller au front, relancer la consommation. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier. Ne doit pas vous faire oublier que toujours la colère gronde. On n'oublie rien, de rien on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien on veut plus de vous, c'est tout. On n'oublie rien.
La revue déconfinée, on n'oublie rien. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. On continue dans la manif du 16 juin, grosse journée d'action et de grève. Et là, on part avec les soignants. Tout à l'heure, c'était les applaudisseurs, là, c'est les soignants. Et on se demande qui ils sont et où ils travaillent.
Et puis surtout, comment est-ce qu'ils ont vécu cette pandémie.
On ne va pas oublier les 30 000 morts du Covid-19. On va pas oublier nos camarades de la santé morts en exercice. On doit combattre le virus Macron.
C'est Radio Campus, ça va, je l'écoute.
D'après votre chasuble, là, vous travaillez à l'EPSM d'Armentières, c'est ça?
Non, à l'EPSM d'agglomération lilloise, sur Saint-André.
Un établissement psychiatrique, hein?
C'est ça. Je suis dans le service technique, un parc automobile. La République qui veut lui, nous, on n'en veut pas. On veut une République solidaire. Lui, c'est la fraternité du 440. Nous, on ne veut pas du 440. Enfin, moi, en tout cas, j'en veux pas. Et je pense que tous ceux qui sont ici, ils n'en veulent pas.
Je suis infirmière de bloc opératoire.
Comment vous avez vécu cette période de pandémie?
Assez compliqué, avec beaucoup de restructuration dans nos services. Et au niveau du bloc, on a dû arrêter toutes nos activités chirurgicales programmées. Et on ne travaillait qu'avec les urgences. Beaucoup de jeunes infirmières sont parties dans les services pour travailler dans les services Covid.
Je retire le masque.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je travaille au CHR de Roubaix.
Au CHR de Roubaix, qu'est-ce que vous y faites?
Je suis brancardier depuis 36 ans.
Vous étiez suffisamment protégé vous-même?
Oh là 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 là. Je pense que là, le discours est très simple à comprendre. Et tout le monde en a fait état. Non, on n'était pas assez suffisant protégé. Et ça, ça vient de là-haut.
Je travaille à l'hôpital Saint-Philibert, à l'Homme. Je suis infirmière, je travaille là-bas tous les jours, aux 35 heures, avec de moins en moins de personnel pour nous aider, ou en tout cas pour travailler ensemble. Ça devient très compliqué de prendre en charge des patients de manière correcte. C'est la santé des gens qui est en danger. Aujourd'hui, on est là pour nos salaires, parce que franchement, moi, ça fait 30 ans que je suis infirmière. Puis c'est vraiment une vocation, mais il y a de quoi parfois être dégoûté quand même de la reconnaissance qu'on n'a pas financièrement. Ça fait vraiment, on a mal au cœur, mais on fait quand même notre travail tous les jours parce que c'est notre passion, c'est notre vocation.
Les applaudissements à 20h, là, vous les avez pris comment?
Ouais, c'est tellement spontané de la part des gens, on ne pouvait qu'être contents et ça nous faisait extrêmement plaisir. Maintenant, malheureusement, que vous dire, mais c'était très gentil de leur part. Maintenant, les gens sont reconnaissants au quotidien avec nous. Ça, c'est ça qui nous tient, enfin moi personnellement depuis 30 ans. Les patients sont très contents de nous voir, de la prise en charge qu'on leur apporte. Mais c'est de plus en plus difficile de garder le sourire malgré tout. Et pourtant, tous les matins, on arrive avec le sourire. Parce que c'est ça le métier, c'est pas juste faire un soin, c'est vraiment s'occuper de la personne, l'écouter.
Nous voilà donc déconfinés, engagés à travailler plus et à produire toujours plus au nom d'un capitalisme et d'une productivité qui ont montré leurs limites sur la santé du monde.
Nous, à vrai dire, au bloc opératoire, on était un peu privilégiés.
Ah d'accord, vous avez reçu les bons masques, FFP2,
tout à fait,
tout ça.
Oui.
Il y a eu des cas quand même compliqués.
Oui.
Il y a eu des jeunes gens aussi, là, hein, qui sont décédés.
Tout à fait,
sans
oui.
forcément de comorbidité.
Oui.
Vous avez vécu des moments comme ça.
Oui, et surtout les collègues des services. Des services, surtout, là. Elles ont manqué de blouses, de surblouses, de masques, de tout ce qui était matériel de surprotection. Elles ont été en difficulté dans les services.
Dans les services, il y avait des cas de Covid. Hein? Donc, le personnel était envoyé d'un service à un autre, sans aucune protection. Et ils revenaient dans le service, reprendre leur poste de travail, alors qu'ils avaient été dans un service où il y avait une contamination de Covid.
Dites-moi un peu comment vous avez vécu cette période de pandémie.
Très difficilement.
Ouais, qu'est-ce qui était différent et difficile?
L'inconnu. L'inconnu sur quoi on tombe. La peur. Enfin, toutes ces choses que nous on connaît l'intérieur et que le public ne réalise pas, mais on a quand même le soutien qui nous fait très plaisir. Mais l'inconnu, ça nous fait peur. Ne pas savoir. Savoir qu'en haut, les personnes ne savent pas, cherchent. Mais nous, on est là, confrontés à ce problème. La détresse des patients et puis la peur.
Et oui, avoir la trouille en bossant, c'est une expérience nouvelle hein, pour beaucoup de gens dans les hôpitaux ou bien ailleurs. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais en montant ce son, je m'interrogeais sur le ton un peu spécial qu'ont ces soignants. Ils ont une façon de s'exprimer qui est un petit peu particulière, avec des intonations que je n'ai pas l'habitude d'avoir dans le micro. Mais je pense que là, c'est des morceaux de fierté, de vraie pure fierté. Hein. On vient les voir avec un mic, on leur dit alors, bah ouais, je suis infirmière, quoi. Là, ça rigole plus, ça pose son salarié, je trouve.
Tu voulais réagir ou Massy ouais.
On a
oui. Bah en fait oui et non parce que au final, même si là tout de suite on a redonné de la visibilité, on a fait en sorte de reparler d'eux, etc. Bah en fait il y a rien qui suit derrière. Et au final, pour moi en tout cas, comment je vois la réaction de l'État, c'est que pour eux ils ont juste pas privatisé assez vite et quoi ?
Mais non, mais je plaisante.
Non mais attends, alors là tout de suite on est en direct, ouais. On est en train de faire une émission et Seb me fait des menaces de mort. T'entends papa, des menaces de mort.
Attends, non, dis pas ça.
Si on part en vrille. Tu voulais pas dire
non.
Okay. Mais il y a autre chose aussi, je vais être très relou. C'est que on parle aussi, enfin là on se base aussi beaucoup des personnes qui sont mortes du Covid, etc. pendant le confinement, sauf que du coup avec les restrictions, etc. Il y a plein d'autres soins qui ont été fermés, comme la psychiatrie et tout, enfin, qui a reçu moins de gens et qu'on n'a pas priorisé. Et du coup, il y a d'autres personnes qui, par exemple, il y a eu beaucoup de suicides pendant le confinement, ou beaucoup de trucs comme ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et même dans les manifs, dans les discours politiques actuels, on n'en parle quasiment pas, en fait. Ouais.
Carrément, merci.
Oui, ils le disent, les soignants, qu'en effet, ils ont dû décaler, réorganiser les services, décaler et donc retarder certaines interventions, certains soins.
Moi, j'aimerais qu'on retourne dans cette manif du 7 juin et qu'on réécoute les mêmes et puis qu'on aille leur poser la question de leurs revendications. Et puis, est-ce qu'ils vont répondre à l'appel de Macron, d'Union républicaine, quoi, je veux dire.
Sinon, pour le seul profit des actionnaires, allez notre mot d'ordre plus que jamais. Il faut travailler tous, et pour travailler tous, il faut travailler moins. Il faut augmenter les salaires, embaucher les chômeurs, augmenter et embaucher les chômeurs.
Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui là ? Si vous venez manifester, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas.
Oui, parce qu'en fait, je pense que les promesses ne seront pas tenues, nous ne serons pas revalorisés. Nous avons été applaudis pendant tout le confinement. Et là, je pense qu'une fois que c'est presque un peu stabilisé, je pense que les gens reprennent leur vie normalement. Et nous, on sera dans les oubliettes.
Oui, pourtant, le président de la République, c'était dimanche, là, il y a deux jours, il disait, ne vous inquiétez pas, vous allez être valorisés. C'est ce qu'il a annoncé.
On attend.
Le Ségur de la Santé, vous y croyez pas, vous ?
Non, les infirmières ne sont même pas représentées au Ségur de la Santé.
D'abord, pour qu'on ait une reconnaissance au niveau de notre travail. Ensuite, la reconnaissance, elle n'est pas seulement professionnelle, elle doit être aussi pécuniaire. Ça fait 10 ans que notre indice est bloqué. On n'a pas d'augmentation de points d'indice depuis 10 ans. Donc, il faudrait quand même penser à augmenter les salaires, aussi bien pour les infirmiers, les aides-soignants, le secteur médical, mais aussi bien pour les techniques et les administratifs. Parce que ça, on oublie un peu trop facilement. C'est que les techniques et les administratifs, s'ils ne sont pas là, l'hôpital ne tourne pas. Hein. Donc l'hôpital, c'est un tout. C'est pas seulement les soignants, c'est les soignants, les techniques et les administratifs. Tous ensemble, on fait fonctionner l'hôpital.
Qu'est-ce que vous êtes venu revendiquer ?
Tout simplement que les promesses à notre président, M. Macron, et au gouvernement soient tenues. Bien sûr, quand on s'engage à quelque chose, on le fait. Des moyens pour travailler en toute sécurité, la sécurité des patients. Et une petite note aussi, nous sommes brancardiers et en tant que brancardiers, nous n'avons aucun statut dans la fonction publique. Rien. Un aide-soignant est diplômé, un infirmier est diplômé. Nous, on n'a rien. Mais on est venu demander simplement que toutes les promesses qui ont été faites soient tenues, des moyens pour travailler, des moyens pour accueillir le public. Enfin, toutes ces choses que nous, on a besoin pour travailler. Voilà, en toute sécurité. Aussi bien pour les collègues que pour les patients. Quelqu'un qui vient à l'hôpital ne vient pas parce qu'il a envie de venir. Il vient parce qu'il est en détresse. Donc soutenir toutes les personnes qui sont là, on a besoin de travailler dans toute la sécurité possible.
Si on veut être encore soigné dans les années à venir, ce serait bien d'avoir une réévaluation de notre salaire, de nos conditions de travail, voilà, sur le nombre de personnels soignants partout dans les hôpitaux, dans les cliniques. C'est tous pareil, c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Je pense vraiment que les gens, enfin en tout cas le gouvernement, prennent conscience qu'il y a un moment, il faut vraiment s'occuper de nous, il faut nous écouter. C'est rare qu'on descende dans la rue. Moi, en 30 ans, c'est la première fois que je descends pour l'hôpital. Mais voilà, il y a un moment où il faut vraiment que les choses changent. Et je pense que là, avec le Covid, ça a été vraiment l'explosion. On a tout donné. Il y a un moment où il faut nous aider, quoi.
Physiquement, on ne veut pas 500 euros une fois et une miette de pain pour nous faire avaler la pilule. Non, c'est revalorisation de notre salaire sur toute notre carrière. Et pas une fois nous remercier parce que malheureusement, il y a eu cette crise sanitaire. Non, c'est toute notre carrière maintenant qu'on veut quelque chose pour nous remercier du travail qu'on fait qui n'est pas facile.
De l'argent. Tu sais qu'il y en a ?
Tu crois qu'il y a encore de l'argent là ?
Ah oui, il y a encore de l'argent. Il y a beaucoup d'argent.
Putain, il y a beaucoup d'argent là ?
Ouais, ouais.
Mais il est où ?
Oh, je pense qu'il doit être... Dans les caisses du patronat.
Dans les caisses du patronat ?
Oui, de l'argent, il y en a.
Dans les caisses du patronat.
Et de l'argent, il y en a. Oui, de l'argent, il y en a.
Il y a deux jours, le président de la République nous demande à la population française de former ce qu'il appelle l'unité républicaine.
Lui, sa république à lui, c'est la république des riches. Nous, notre république à nous, c'est la république du peuple. Ceux qui travaillent, ceux qui subissent, justement, cette injustice tous les jours.
Unité républicaine, oui, mais on veut que les promesses soient tenues.
Il gaz.
Ça, c'est la réponse qu'on vous fait, en fait.
Eh bien, vous avez enfin la réponse.
Ils ont le droit d'étrangler les gens. Ils ont le droit d'étrangler les gens.
Et... On marche tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait? On est gazés. Et voilà. Eux, ils jettent leurs menottes, ils ont ce qu'ils veulent.
Alors voilà le problème. Unité républicaine, voilà la réponse.
Je pense que tout le monde devrait être ici avec nous aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont applaudis, là, ils devraient être ici aussi.
Alors vous nous dites que l'unité républicaine, elle est ici maintenant dans la rue.
Oui, ouais. Ouais, tout à fait.
Le monde d'après, vous l'espérez comment?
Je ne sais pas.
Vous y croyez pas, vous, aux jours heureux?
Non. J'y crois plus. Je suis pessimiste, hein, mais j'y crois plus. Non.
Chômeurs, salariés, unité, unité, étudiants, retraités.
Alors oui, c'était une belle manifestation. On évalue le nombre de participants à 10 000, hein. Autour de 10 000, c'est pas mal, il faisait beau, tout ça, bon enfant, on s'est pas trop fait gazer, mais quand même, 10 000, c'est quand même peu, on peut pas s'empêcher d'avoir un petit goût d'amertume, surtout qu'il n'y a pas, la suite, là, dans cette mobilisation. On attend la suite, pour l'instant, il y en a pas. Alors oui, il y avait des soignants, comme on l'a entendu, il y avait des soignants qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, et tout ça, c'est plutôt réjouissant. Il y avait des applaudisseurs, mais il nous manque encore le volume et il nous manque encore la masse.
Est-ce que c'est pas parce que, justement, ils se sont jamais mobilisés qu'on en est arrivé à un tel niveau dans l'hôpital public?
Je ne sais pas. On peut quand même pas. Quand on évalue quand même une manif comme ça, dans un contexte comme ça, il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un contexte d'une maladie mortelle.
Une pandémie.
C'est ça qui circule. Hein. Dans une manif, on est proches les uns des autres. Ouais.
Ça, c'est vrai. Ça encourage Toto, pas. Tu voulais dire?
Ouais, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là, sur les discours qu'on a entendus, c'est l'unité dans les revendications. Donc forcément des revalorisations salariales, on parlait de quelque chose comme 300 euros.
Ça, il y a une sacrée unité dans ce qu'ils disent. Hein,
voilà,
vrai.
Et aussi ce besoin de reconnaissance. Alors là, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant. En fait, ça fait des années que les soignants demandent à être reconnus. C'est pas depuis le début du Covid. En tout cas, pour ma part, je suis au contact de soignants assez régulièrement.
Il y a une grève qui dure depuis plus d'un an avec le collectif Interurgence.
Par exemple. Mais voilà, là on sait qu'on est parti pour des mois de lutte, ça a peut-être recommencé, on n'est pas à l'abri d'un nouvel épisode de Covid en septembre, j'ai lu un article tout à l'heure sur ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est le comportement aussi de Alliance Police Nationale.
Le principal syndicat des forces de l'ordre.
Suite à l'interdiction de la clé d'étranglement par Christophe Castaner, les gars se réunissent à 50 sur les Champs-Élysées. Et bizarrement, dans la soirée, le gouvernement fait volte-face. Et là, on se retrouve avec une police qui peut à nouveau étrangler. Je rappelle juste quand même que, là j'ai les chiffres sous les yeux, le budget d'armement de la police, c'est 11,7 milliards par an.
Ah oui, il y a un petit silence là.
Si on peut donner la même chose aux hôpitaux pour que nos soignants ont les moyens de soigner, pour qu'ils puissent avoir au moins des masques, au moins du gel hydroalcoolique, je pense que ça pourrait être pas mal, plutôt qu'acheter des LBD pour tirer sur les manifestants ou sur les quartiers pop.
Ça se tient ton truc?
Ça, il en manque jamais, hein, des LBD et des gaz lacrymo.
Non, c'est sûr. Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
Je t'ai un peu coupé le sifflet.
Je m'auto-coupe le sifflet, mais oui, c'est aussi mon privilège. Je me tourne vers Jean-Jacques, qui n'est pas là, mais qui est là, oui. Puisque Jean-Jacques est parti en reportage.
Salut
Jean-Jacques. On était devant la statue de ce gros général Fédère sur son gros cheval. Que c'est beau. Qu'est-ce que c'était beau, le 19e siècle, quand même.
Avec ses femmes à ses pieds qui l'admirent.
Et alors, les trois quarts des gens oublient souvent, passent devant, se disent, ouais, bien, avec son canasson, c'est bien. Sauf que il a quand même colonisé à peu près tout le Sénégal à coup de massacre.
Il a massacré des villes entières.
Il était socialiste, hein, par contre.
Petite devinette.
Député de Lille.
Je pense qu'elle va être assez facile, la devinette. Qui a dit en 10 jours nous avions brûlé plusieurs villages riverains?
La mer Noire.
2000 bœufs, 30 chevaux, 50 ânes et un important nombre de moutons. Fait 150 prisonniers, tué 100 hommes, brûlé 25 villages.
Martine Aubry.
Emmanuel Macron.
Calmez-vous, mais laissez parler notre camarade.
Wow, allez.
Wow. Non, mais là, je te laisserai pas.
Essaye encore. Les Noirs n'apprécient guère le danger et ont le système nerveux très peu développé.
C'est Loulou Fédère.
Ah, mais c'est professeur Raoult.
Ah, si, Loulou Fédère.
C'est Loulou Fédère. Ah, oui.
Les Noirs n'apprécient guère le danger et ont le système nerveux très peu développé, ça je l'ai dit. L'infériorité des Noirs provient du volume relativement faible de leur cerveau.
Je vous rappelle, vous écoutez une émission de gauche. Si vous tombez à l'instant, c'est bien sûr du second degré. Non, quoique c'est un fait historique, puisqu'il s'agissait du général.
Oui, vous avez trouvé, c'était trop facile. Il disait aussi, un arabe tué, c'est deux Français de moins assassinés.
Attends.
Bon, alors donc.
Non, parce que là, moi, je suis un peu perturbée, vous êtes quatre, je sais pas par lequel commencer.
Non, mais toi, t'es kabyle, toi, t'es pas...
Ça n'a rien à voir.
C'est
sous-arabe. Vous n'êtes pas vraiment des Africains, quoi. Si. Oh, merde, comme
vite. Deuxième alors, problème. Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, que faisais-tu donc
J'avais un micro et j'ai interviewé Salian Silla, enseignant et militant de Survie Nord.
On a quand même pas dit l'essentiel, c'est-à-dire que là, il y avait donc un rassemblement à l'initiative de plusieurs associations de décolonisation, disons.
Tout à fait.
Et donc, qui était Place de la République. Et de l'autre côté du boulevard de la Liberté, c'est-à-dire au pied de la statue Fédère, il y avait ceux qui voulaient s'opposer à ce déboulonnage, enfin, à cette tentative symbolique de déboulonnage. On n'imagine pas que ça puisse effectivement aboutir, hein, faut pas déconner. J'imagine pas Saïd Bouamama en train de réussir à démonter cette statue qui doit faire 7 tonnes, quoi.
Avec une bonne scie sauteuse.
Et là, il y avait donc des flics en protection, mais pas uniquement. Il y avait aussi une douzaine de fascistes bien connus. Des fascistes lillois bien connus. Donc, voilà. On parlera de ce qui s'est passé ensuite, hein, puisque t'as des sons de la charge facho-flic, hein, parce que maintenant à Lille, voilà, les flics chargent avec des fachos.
Oui, bonjour.
C'est deux groupes différents.
Ces pancartes, qui les a écrites, qui les a dites, ces phrases?
Ce sont des citations des écrits de Fédère en personne. En haut, vous avez une citation, ce ne sont pas des écrits, c'est une déclaration de Fédère devant un comité scientifique de l'époque, en fait. Parce que quand il a fini son travail en tant que gouverneur du Sénégal, Fédère est venu en France, il a beaucoup publié, il a fait beaucoup d'interventions pour parler comme un scientifique de l'infériorité des Noirs. Et c'est ainsi qu'il a fait cette déclaration en 1879. Alors en 1844 déjà, au début de sa carrière, quand il est allé en Algérie pour la première fois.
En tant que général pacificateur.
À l'époque, il était colonel. Il est allé en Algérie en tant que colonel. Donc colonel à la suite de Bugeaud. Donc il écrivait à sa mère, hein, en disant ce que vous voyez ici. Vous voyez une guerre d'extermination et malheureusement, il est impossible de la faire autrement. On est réduit à dire un arabe tué, c'est deux Français de moins assassinés. Donc vous voyez un peu l'ampleur du désastre, des razzias, des enfumages, des pillages, des meurtres, des assassinats, etc. qui avait cours en Algérie déjà. Donc il s'est fait la main en Algérie avant de revenir en France, d'aller en Guadeloupe dans un séjour très court. Et puis après, il a été coopté par le patronat français, Morel et Prom à l'époque, qui ont suggéré à ce que FEDER vienne au Sénégal pour les aider à installer leur commerce. C'est-à-dire qu'ils avaient un commerce qui était florissant du temps de l'esclavage. Ce commerce-là, quand l'esclavage a été aboli, ce commerce a décliné et ces commerçants, ces industriels ont vu qu'il y avait en fait dans les États africains de la bordure, autour du fleuve Sénégal qui était là, ces États-là refusaient en fait le commerce et opéraient des opérations, menaient des opérations pour intercepter les petits bateaux qui allaient le long du fleuve Sénégal pour livrer le commerce. Il y avait aussi des impôts, des taxes qui étaient fixées par ces États-là à l'encontre des industriels et des commerçants français qui avaient des comptoirs de commerce sur la côte du Sénégal. Donc c'est à ce moment-là que, puisqu'ils voulaient répandre, procéder à une expansion de leur commerce, ils ont demandé à ce que l'armée française, par la personne de FEDER, intervienne pour instaurer, pour dominer et soumettre tous ces ensembles de royaumes pour qu'eux puissent faire prospérer leur commerce. Il y avait aussi en tête l'instauration de la culture arachidière déjà à l'époque. Donc c'est ce qui est arrivé quand FEDER a tellement bien fait le boulot, c'est-à-dire il a massacré pas mal de populations, il a soumis pas mal de gens, il a pillé pas mal de récoltes, instauré un cycle de famine au sein des populations locales. Il a tellement bien fait ce boulot que ces industriels et ces commerçants ont demandé à ce qu'ils soient nommés. Ils ont fait du lobbying intense à l'époque pour que FEDER soit nommé gouverneur. C'est comme ça qu'il a été nommé gouverneur dans un premier temps, dans les années 1850. Ensuite, il est revenu une deuxième fois parce que pour continuer son travail. Donc, alors, on présente FEDER souvent comme quelqu'un qui a été le bâtisseur entre guillemets du Sénégal. Ça fait rigoler parce que bâtisseur du Sénégal, c'est celui qui a pillé le Sénégal. C'est celui qui a instauré inséré le Sénégal dans un cycle capitaliste qui fait que les métropoles déjà de l'époque, ce n'était pas encore le cas, mais les pays qui étaient en expansion coloniale ont déjà assis un système de commerce qui voulait que les pays africains, les royaumes africains, les ensembles africains de l'époque puissent être des débouchés pour leur marché.
Oui. Alors, Jean-Jacques, ça c'est l'interview que tu fais. On a bien compris à qui on a affaire avec ce Louis Federbe-là, qui a eu des responsabilités politiques importantes en France aussi, hein, sur le territoire. Il était député ou sénateur, je ne sais plus.
Député
de Lille, le député du Nord.
Oui.
Et donc, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a eu ensuite quelques échauffourées avec les forces de l'ordre et les fascistes qui étaient présents.
Alors, moi, je vous explique ça. Juste à dire que cette interview de Saliency-là, on retrouve la suite la semaine prochaine. Puisque
c'est Survinor. Hein.
C'était assez long. Et c'est un militant de Survinor, effectivement, qui a la cheville ouvrière de cette mobilisation. Alors voilà comment ça se passe, effectivement, devant la statue de FEDER, qui était l'endroit qui nous était interdit, nous, militants pour la suppression de cette statue.
Elle est loin de l'objectivité journalistique.
Il y avait environ 70 policiers, CRS, on va dire ça, hein, à peu près, oui. Et 10-15 fachos qui étaient là, mélangé pratiquement avec la police.
Qui faisait des doigts d'honneur. Il y en a un qui a fait un salut hitlérien, on le voit sur une photo pendant la charge.
Effectivement.
Ouais. Oui.
Alors, on sentait bien qu'il fallait...
Ils sont jeunes, faut que ça sorte. Vas-y, non, ils sont comme ça. Là, et donc,
Il fallait que ça sorte aussi du côté des gens qui étaient rassemblés là. Et assez bon. Au bout d'un moment... Deux, trois personnes ont voulu traverser la route pour aller combattre les CRS et tous les fascistes qui étaient réunis là. Bon, on peut en penser ce qu'on en veut. Et puis là, c'était évidemment le prétexte que la préfecture attendait, que la police attendait pour intervenir et disperser ce rassemblement et interrompre les prises de parole qui étaient en cours.
Pas disperser les autres, ils étaient pour vous là, merde! Faites chier, merde! Il n'y avait pas de problème avant!
Putain, mais c'est pas vous! Mais ça va pas, non?
chaud.
Je me demandais ce qui s'est passé là.
Là, comme ça, à chaud, émotionnellement, c'est un peu dur en fait là de pouvoir vous répondre. Mais on constate, voilà, qu'on a une statue, un symbole de suprématie qui est défendu par un cordon policier et des fachos qui provoquent et qui cherchent à finalement légitimer en fait ça. Ce n'est pas possible. Il y en a marre de reculer face à ce pouvoir qui vient écraser en fait les personnes minorisées et altérisées.
Voilà. Quelle a été l'action de la police là?
De tenter de nous disperser, d'annoncer des sommations qui sont suivies lorsqu'il n'y a pas de dispersion, soit d'une charge, soit d'un jet de grenade lacrymogène. Ce qui est quand même très symptomatique, vous remarquerez.
Protège les fascistes ! La police protège les fascistes ! La police protège les fascistes ! La police protège les fascistes !
Attention.
À gauche, à gauche.
Oh, baisse ton flashball là.
Oh, sérieux?
C'était les caricaturales. Caricaturales cette scène.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé là?
Depuis
10-15 minutes,
on a eu des provocations en fait qui duraient depuis un certain temps par un groupe de fascistes en fait, déclaré devant le rang de gendarmes mobiles qui était devant la statue Federbe. Et à un moment donné, des personnes se sont rapprochées au milieu de la route et les policiers ont bien évidemment choisi de charger le camp le plus nombreux, c'est-à-dire nous, ou bien le camp qu'ils ont l'habitude de charger. Et donc là, on se retrouve poussé sur la place de la République. Ils ont voulu avancer en fait pour attraper un gars qui, je pense, n'a rien fait de plus que bouger des barrières en fait.
Vous êtes toujours à l'écoute d'On passe au rouge sur Radio Campus 106,6. Mais dites-moi, les islamo-gauchistes d'On passe au rouge, là, c'est pas un peu facile? Ça va vous faire votre année, là, cette photo.
C'est des belles images.
Vous vous êtes régalé, ouais, à vous et devant cette image des flics et les fachos main dans la main, non?
La France qui
non
sombre.
Mmh. Non,
toujours, ouais, un peu plus. Les islamo-gauchistes, c'est vous, hein, Massy et Toto.
Oui.
C'est pas moi.
Comme d'hab.
Enfin, moi, je...
Bah, voilà. Moi, je trouve pas ça étonnant. C'est pas la première fois qu'en pleine manifestation, la police se met en avant pour protéger les fachos et attaquer directement les manifestants. C'est déjà arrivé pendant les Gilets jaunes, où devant un bar, il y avait des faves qui sont sorties et qui ont commencé à nous balancer des bouteilles et des verres vides dessus. Puis quand la police, oui, elle est arrivée, vrai, elle a fait rentrer tout le monde à l'intérieur du bar et c'est les manifestants qu'elle a arrêtés. Donc, moi, je pense que ce qui est cliché, c'est encore de faire la différence entre fachos et flics.
Et est-ce que le préfet Lalande répond des fois parce qu'on se pose beaucoup la question de savoir ce qu'il en pense, le préfet Lalande. On voit en fin de tract, souvent, on se demande.
On aimerait bien.
Bah oui, on aimerait bien.
Qu'il réponde, hein, plutôt que déposer plainte contre des militants comme ça pour balancer à tout hasard sur Facebook. On aimerait bien un moment qu'il réponde de ces flics, des personnes qui sont sous ses ordres. Là, on voyait clairement, en tout cas, il y a plusieurs images qui sont en train de tourner des renseignements territoriaux en train clairement de se fondre la gueule avec les fascistes qu'on a vu d'ailleurs qui sont activistes à la Citadelle, qu'on a vu dans le reportage Génération Elite. Donc on aimerait bien qu'ils répondent.
Oui, d'ailleurs, dans ce reportage-là, parce que c'est ça que je voulais dire, on voyait déjà des collusions. Dans le reportage, ils soulevaient quand même les collusions.
Celui d'Al Jazeera, c'est ça?
Ouais, c'est ça, entre la police à Lille et la Citadelle. Donc, c'est des identitaires, pour être précis, c'est ça? Ou c'est
des identitaires,
un ramassis de trucs?
De toute façon, les identitaires, pour moi, c'est déjà un ramassis de trucs de base.
Ouais, de trucs, ouais.
Techniquement,
on dit des
trous ducs. C'est trous ducs de base.
De base, ouais.
De base, mais ils vont pas très haut.
Non,
mais on aimerait bien que le préfet Lalonde réponde à un moment de ces collusions-là. Après, oui, on les a vus, on en a vu plusieurs qui ont été clairement identifiés, qui étaient dans ce reportage, notamment un dénommé Roux. Qui s'appelait comme ça,
qui a fait une prise de ninja, d'ailleurs il a été filmé, il s'est cassé la gueule là.
Hein. Il s'est fait un petit peu glisser
sur sa 8-6 tiède.
c'est quand même une personne qui...
Ils décollaient des bières les mecs, hein, avec les flics là, tranquille.
C'est quand même une personne qui va frapper rue Federbe, justement, il me semble, une personne maghrébine, juste sur le fait qu'elle soit maghrébine. Toutes les insultes qui vont bien derrière. Et puis après, voilà, collusion entre police et fascisme, faut quand même voir un petit peu la proportion de votants chez les policiers Front National, ou en tout cas on regarde un peu les chiffres encore une fois d'Alliance Police Nationale à l'intérieur, toutes les voix partent au Rassemblement National.
C'est toute une idéologie autour des policiers au final, même dans leur formation.
Même dans leur formation.
Oh, ouais. Oui, d'ailleurs, on a un son là-dessus, hein, mais qu'on n'aura pas le temps de passer cette semaine. On est tombé sur un formateur de flics, dis donc, qui a bien voulu répondre à nos questions. On a un petit son sympathique qu'on vous passera, mais ça sera sans doute la semaine prochaine ou un peu plus tard. Oui,
musique.
C'est tout, c'est bien.
Bah oui, c'est très bien.
À tout de suite.
Musique.
Ces attaques viennent également de mon camp, de la droite ou de ceux qui s'en réclament. Je dis simplement, ils ont perdu la tête.
Mourir à 16 ans, pour un drapeau rouge, Kalachnikov en main, tirer sur tout ce qui bouge. Mourir à 20 ans, pour un drapeau noir, exprimant leurs requêtes, tombé pris du pouvoir. Sous le pillon, cracher sa révolte à la face du bourreau. Prolétaire,
tous ensemble, tous ensemble.
Manifeste,
tous ensemble, tous ensemble.
Prolétaire,
tous ensemble, tous ensemble.
Manifeste,
tous ensemble, tous ensemble.
Pas square, en cul.
Ludwig 2088, Prolétaire. On passe au rouge chaque lundi de 19h à 20h sur Radio Campus en 6,6. Allez, on retourne encore une fois dans la manif du 16 juin à Lille, mais cette fois-ci pas pour interviewer un soignant, quoique peut-être est-il soignant, mais pour interviewer quelqu'un qui est non pas en blouse blanche, mais habillé tout de noir, un black au fond d'un bloc, disait l'autre. Un black bloc, c'est ça, hein, Seb?
Oui, alors il y a des confusions qui sont faites sur l'identité, le sens qu'il y a derrière ce mot tout le temps, partout. Là, ça atteint un certain comble. Toto et Massilia, qui sont d'ailleurs sur le plateau, se sont énervés de l'attitude de certaines personnes, notamment dans les manifs anti-violence qui sont passées par le quartier de Moulins, de gens qui créent des dégradations sur le parcours des manifs. Il y a des gars de la CGT qui se sont particulièrement énervés aussi des dégradations faites autour de la manif du 16, même si elles étaient assez légères, hein. C'est la façade du McDo étoilée, puis une ou deux poubelles renversées. Mais enfin, il y a quand même des questions qui se posent là, autour des gens qui sont actifs et dans les... enfin, violent dans les manifestations. On a déjà passé certains de ces sons qui montrent que derrière le masque, parfois, on trouve même des fachos. Mais c'est pas du tout un facho qu'on va entendre là. Bien au contraire, c'est plutôt un anti-facho. Alors, on est nombreux à porter un masque en manifestation, mais masque était noir, il est habillé entièrement en noir, et il s'agit de quelqu'un qui n'aime pas trop les étiquettes, mais enfin, anarchiste, ça lui convient quand même plutôt pas mal. Alors, voyons ce qu'il a à dire, puisqu'il a, en effet, des trucs à dire.
Bonjour monsieur, je peux vous poser quelques
questions sur Radio Campus? C'est pour Radio Campus alors.
Vous avez applaudi vous à 20h tous les jours?
Non, pas du tout.
Non, pourquoi?
Parce que je savais que ça allait servir le mythe de l'unité nationale et que on allait se faire baiser avec ça. Et ça va, je suis content aujourd'hui, je vois que les gens sont quand même bougés en masse. Ça fait plaisir.
Pourquoi vous êtes venu vous aujourd'hui?
Présentement pour les services publics et les soignants en particulier. Et puis après, parce que je suis les mouvements sociaux d'une manière générale et que je viens m'opposer physiquement, concrètement dans la rue, comme on devrait tous faire de la politique, cette politique qui est menée depuis beaucoup trop longtemps maintenant et qui fait qu'on se retrouve avec plus de flics que de soignants et qu'on se retrouve à se faire taper dessus par les gens qui doivent nous protéger quand ceux qui sont censés nous soigner n'ont pas les moyens de le faire. Voilà, encore un bon exemple, là, on passe rue Sainte-Anne où on voit qu'aucun policier ne manque de casque à visière quand les soignants se sont habillés de sacs poubelles pendant 3 mois. Ah, ça me paraît déjà être une bonne raison en soi d'être dans la rue aujourd'hui.
Une fois de plus, vous n'avez pas le droit d'aller dans le centre-ville de cette ville. Hein.
Ah, ça fait un moment, on était juste au coin de la gare de Flandre, là, où ça a chauffé plusieurs fois déjà ces derniers temps. Et ouais, c'est assez symptomatique. Alors même que le politique devrait consister en décider ensemble des mesures qui sont prises pour la population, on voit bien que dès que les gens se réemparent des sujets qui les concernent tous, la réponse des dominants, c'est répression, violence et interdiction d'aller se montrer dans les endroits qui comptent vraiment.
En même temps, il y a 2 jours, le président de la République vous lance un appel à l'unité républicaine. Est-ce que vous ne faites pas partie, finalement, un peu de ces séparatistes qu'il évoque aussi ?
Ah, je fais complètement partie des séparatistes, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'était lui la minorité. L'immense majorité des Français ne veut pas payer 5000 euros la journée d'hospitalisation, comme ça peut se faire aux États-Unis, par exemple. Alors qu'on sait bien que ce qui est en bout de course du modèle néolibéral, c'est justement cette réalité-là au niveau des soins. Le pouvoir refuse absolument d'écouter des revendications légitimes jusqu'au moment où on le force par le nombre, par la pression constamment maintenue, on le force à avoir la discussion, les discussions qui comptent.
Et ce fameux monde d'après, vous le voulez comment ?
Ah bah, moins de flics, plus de profs, moins de politiciens corrompus et plus de soignants. Un toit, un logement, de quoi se nourrir et s'abreuver, de quoi se soigner, de quoi s'éduquer, libre et gratuit pour tout le monde. Et je pense que c'est l'unique condition sur laquelle l'ensemble de la gauche pourrait se rassembler. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut viser dans un premier temps pour après pouvoir réfléchir à un système qui ne ferait plus la part belle à l'argent, à la finance, aux intérêts d'un tout petit groupe mais qui remettrait vraiment l'État à la place qu'il doit occuper, à savoir prendre soin de l'ensemble des concitoyens et pas seulement d'une petite partie. Et alors après, à titre vraiment personnel, et si on creuse un tout petit peu plus loin, je pense qu'on pourrait aussi remettre en question la notion même d'État telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça, c'est encore une autre discussion bien plus vaste et bien plus longue.
Vous êtes un anarchiste, vous, monsieur.
Je flotte entre différentes tendances. Mais j'aime pas trop les ordres, j'aime pas trop l'autorité, ça c'est sûr.
Les étiquettes. Merci.
Eux aussi, ils flottent entre différentes tendances. Eux non plus n'aiment pas trop les étiquettes, mais à part celui de son caleçon. Pour Toto, bien sûr. C'est Toto et Massy et leur chronique. Oui, c'était l'attaque gratuite de mon annonce.
Massy, ouais. Revient dans la partie.
Par tant de rage. On revient aujourd'hui avec une chronique explosive.
C'est beau.
Comme la nitroglycérine.
Et en direct. Oui. On a repris nos luttes ces dernières semaines.
On a défilé dans nos belles rues lilloises.
On a défilé contre le racisme.
Contre le capitalisme.
Contre le libéralisme.
Pour que vive la friche.
Contre la destruction de nos hôpitaux. Bref, on s'est remis à lutter. Bon, après chaque manif, on a eu une certaine rage.
Une goutte de rage dans un océan de bonheur.
Une tache d'encre sur un papier buvard. On le voit rien qu'au reportage de l'émission d'aujourd'hui, tout est centré sur nos combats. Mais j'ai une question. Toto, toutes les luttes sont-elles identiques ?
Moi, je dirais que non. Oui. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'elles sont identiques, mais plutôt qu'elles sont similaires. Il y a une différence. Elles présentent des similitudes dans leur construction, mais elles restent différentes dans leur fondement et dans leurs identités.
Peu importe de quelle lutte on parle, on retrouvera les mêmes sensations, la même envie, la même rage. Mais il faut admettre qu'on ne parle pas forcément des mêmes objectifs. Quand je défile dans une manifestation féministe, je me sens invincible, bien que mes objectifs aillent contre tes intérêts, Toto. Quand je suis dans une action antiraciste, je suis envahie d'une rage chaude, violente, qui assécherait un volcan en irruption. Mais à nouveau, c'est tes intérêts que j'attaque, Toto. Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?
Quand j'ai défilé avec toi sur la marche féministe du 8 mars, j'étais bien là, présent, mais je me sentais pas vraiment à ma place. Et quand vous les meufs, voilà, preniez la chaussée, bah moi je prenais que les trottoirs. J'avais envie d'être là, mais je voulais pas prendre trop de place. Quand j'ai défilé avec toi sur les marches de Black Lives Matter, j'avais toujours en tête de ce que je représentais pour les personnes qui m'entouraient. Je connais, je sais que j'ai des privilèges. Mais des privilèges de mec, des privilèges de mec blanc et d'hétérosexuel.
On entend déjà certaines personnes penser que ce qui prime est la lutte des classes.
Que les privilèges qu'on cite ici ne seraient que l'émanation de ma pensée de petit bourgeois alors que très peu me connaissent.
C'était moi aussi.
C'est dans ce cas qu'on vous invite à baisser le son de votre poste de radio, à changer de station ou à ouvrir 2 secondes vos oreilles parce qu'on a bossé la question ces derniers temps.
Il faut jamais dire ça.
On n'a aucun problème à dire ça et on n'a aucun problème à dire que dans un pays à l'idéologie libérale, une personne noire de classe bourgeoise aura moins de problèmes socialement qu'une personne blanche et prolétaire.
On pourra quand même noter que la discrimination raciale se fera dans sa classe sociale, mais expliquer les dysfonctionnements de notre société uniquement par la lutte des classes revient à nier tous les effets et toutes les causes de notre système d'oppression.
Pour être un peu plus clair, comment expliquez-vous qu'une partie non négligeable des électeurs du Front National soit des ouvriers issus de classe populaire ?
Bref, toi tu as autant de privilèges que moi j'ai de stigmates.
Je suis totalement ton opposé.
En termes de genre, de sexualité, d'ethnie, notre société française a été faite pour des hommes blancs cis et hétéros, par des hommes blancs cis et hétéros.
Vous voyez pas où on va en venir ?
Oui.
Ok, très bien.
Un peu, si.
En préparant la chronique, on est tombé sur plusieurs vidéos qui expliquent le concept de privilèges sociaux. Une de ces vidéos nous montre nos privilèges sous forme de jeu, donc on va jouer aussi les gars. Vous mettez vos mains bien en avant devant vous, vos 10 doigts bien en évidence.
Sauf si vous êtes au volant.
En train de lustrer la vaisselle de mamie.
Ou si vous tenez un enfant.
C'est pas conseillé.
Enfin voilà. Oui, merde. Donc vous allez baisser un doigt à chaque fois que je dis quelque chose qui vous concerne.
On commence par lequel ?
Baisser un doigt, si tu as déjà été victime d'une insulte raciale.
Je bosse à Roubaix, ouais.
Baisse un doigt si on t'a déjà fait une remarque sur ton décolleté.
Baisse un doigt si tu gagnes 30% de moins que tes collègues pour un travail égal.
Baisse un doigt si on t'a déjà fait une remarque désobligeante alors que tu embrasses ta compagne ou ton compagnon dans la rue.
Contrôle.
Baisse un doigt si tu ne peux pas sortir sans ta carte d'identité.
Baisse un doigt si tu t'es déjà fait contrôler par la police sans motif valable.
Baisse un doigt si le vigile t'a déjà suivi dans le magasin.
Baisse un doigt si on te demande constamment si tu es une fille ou un garçon.
Baisse un doigt si on te demande régulièrement tes origines.
Baisse un doigt si on t'a poussé à t'excuser pour les attentats de Paris en 2015.
Il vous reste des doigts ? Voilà vos privilèges.
Oui, mais je dirais pas où.
Oh oh. Attends, continue. Te laisse pas avoir par lui. C'est un provocateur.
Bon, après, on n'est pas dans la flagellation, mais plutôt dans le questionnement. On se pose des questions, on a cherché à comprendre le processus pour pouvoir le renverser.
Par exemple, une question qu'on me pose souvent, c'est « Un homme peut-il être féministe ?» On pense pas. Pour nous, un homme ne peut pas être féministe. En discutant avec des hommes, on peut leur faire comprendre ce que nous, les femmes, vivons dans notre quotidien, mais ils peuvent pas savoir ce que c'est que d'être une femme. Car la société que nous faisons ensemble nous impose des comportements sociaux genrés. Cela passe par l'éducation, les constructions et les reproductions sociales, puis le féminisme, c'est une lutte.
Une lutte, c'est une confrontation d'intérêts.
Nos intérêts seront systématiquement divergents.
Là, par exemple, on prend le féminisme, on peut faire le même schéma pour le racisme, la transphobie ou l'homophobie.
Pour moi, il n'y a pas d'homme féministe, mais on peut parler d'homme allié des luttes féministes.
Ah oui, quand même. Ouais, parce que
être
même,
allié, et c'est quoi être allié ? Mais être allié, pour moi, en tout cas, c'est déjà être à l'écoute et ne pas penser avoir la science infuse. C'est compter ses privilèges, comme on l'a fait là il y a quelques instants, et savoir anticiper nos comportements. Quand je vais agir d'une certaine façon, c'est se demander si je n'use pas abusivement d'un de mes privilèges et si je n'opprime personne. Être allié, c'est aussi savoir se servir à bon escient de ce qu'on représente ou de ce qu'on incarne.
Et c'est être vigilant au comportement sexiste dans les transports en commun, par exemple, mais ne surtout pas agir à la place de l'opprimé.
Pour moi, être allié, c'est une lutte constante contre mon éducation et ma socialisation.
C'est douter, se questionner, se déconstruire. Être allié, c'est écrit dans aucun livre, ça se pratique.
Parce que, comme le dirait le rappeur La Canaille, crier révolution ne fait pas de toi un révolutionnaire.
Pour terminer, en ce lendemain des fêtes de la musique, nous voulons rendre un hommage.
En fait, on voudrait rendre un hommage à un type qui avait 24 ans, qui, comme moi, était animateur. Un type qui aimait juste faire la fête avec ses amis. En fait, nous voulons rendre hommage à Steve, mort noyé le 21 juin 2019, après une charge de la police à Nantes. Sur la musique des Verruriers Noirs, pour Chéri.
Des salutations révolutionnaires, et à la semaine prochaine.
Nous sommes dans un état de jungle, et pas tous ces lois qui flinguent. Pour Chéri, pour Chéri.
C'était On passe au rouge, on se retrouve lundi prochain 19h à 20h bien sûr sur cette même antenne.
Pour la dernière.
Pour la dernière de la saison.
Merci
Gigi, Toto et merci à toi Seb pour la réalisation.
Merci Gros Doda pour l'animation.
Et voilà.
Bisous.
Bisous à toutes et à tous.
И солнце. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.